Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un Palestinien a été tué à l'aube par l'armée israélienne. C'est arrivé lors de heurts dans le nord de la Cisjordanie occupée. La présidentielle prévue le 24 décembre en Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé sa candidature aujourd'hui dans un discours retransmis à la télévision. Les forces de l'ordre ont démantelé ce matin un camp d'exilés à Grande-Synthe, dans le nord de la France, une opération sur ordre du ministre de l'Intérieur. Le prêtre lyonnais Christian Delorme a effectué un jeûne de soutien pour les migrants de Calais. Il dénonce la situation des exilés et soutient les grévistes de la faim. Christian Delorme sera l'un de nos invités. Les gardes-côtes marocains ont porté assistance depuis vendredi à quelques 330 migrants, des personnes en difficulté à bord de différentes embarcations de fortune dans l'Atlantique et en Méditerranée. Elle a pleinement installé son travail artistique dans la modernité. Elle est aimée partout dans le monde arabe. L'hommage du poète Tahar Bekri après la mort de la peintre et poétesse libanaise Etel Annan. Nous écouterons Tahar Bekri. L'épidémie de Covid-19 se propage de plus en plus activement en France. Le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement assure qu'il n'envisage pas de confinement. Les forces de l'ordre ont évacué le camp de Grande-Synthe près de Dunkerque où vivaient 1500 migrants. La préfecture des Hauts-de-France a ordonné cette évacuation menée ce mardi matin. Une opération sur fond de tension entre Paris et Londres autour de la question migratoire et de contestation du traitement réservé aux exilés sur le littoral français. Dans ce contexte, le prêtre lyonnais Christian Delorme a effectué un jeûne de soutien pour les migrants de Calais. Il dénonce la situation des exilés et soutient les grévistes de la fin. Christian Delorme souhaite donner de la visibilité médiatique au combat porté par deux militants associatifs et un prêtre mobilisés pour la cessation des évacuations policières de migrants à Calais le temps de la trêve hivernale. Entretien avec le père Christian Delorme.
Le cœur du sujet, c'est la situation des migrants sur cette côte calaisienne, aussi Grande-Synthe. On peut lier cela aussi au sort des migrants à la zone frontalière alpine de Briançon. Voilà, c'est tout le problème des arrivées de migrants aux frontières, du sort qu'ils auraient fait, indépendamment de leurs intentions. Puisque c'est vrai que une bonne partie des migrants qui arrivent par la région de Briançon sont plutôt désireux de rester en France, mais ceux en revanche qui sont à Calais sont des candidats pour la Grande-Bretagne. Mais indépendamment de cette question, se pose la manière dont la France traite ces hommes et ces femmes, qui ne sont pas des malfaiteurs, hein, qui sont d'abord des gens qui ont été jetés sur les routes de l'exil pour mille et une raisons dont nous n'avons pas à juger, mais voilà, ce ne sont pas des malfaiteurs, ce sont des gens très précarisés, très fragilisés, qui ont souvent connu de grands traumatismes. Et voilà que dans notre gestion, on peut dire policière, on est amené à leur faire subir un peu plus de traumatisme, un peu plus de violence.
Et c'est une situation qui devrait, selon vous, indigner davantage la société française aujourd'hui.
Bien entendu, si plus de gens voyaient les images de ces expulsions, il y aurait de l'indignation qui montrait, parce que je crois que la plupart des gens sont capables de comprendre, encore une fois, que ceux et celles qui migrent, ce ne sont pas des gens qui veulent profiter de nos sociétés. Ce sont des gens qui ont dû fuir des situations de guerre quand ils viennent d'Afghanistan, par exemple, de misère quand ils viennent de pays où le réchauffement climatique est en train de détruire complètement l'agriculture. Voilà, ce sont des pauvres du monde, mais des pauvres qui sont porteurs de plein de richesses, comme souvent les migrants. En fait, on est dans des sociétés, et c'est ça qui est complètement fou aujourd'hui, c'est qu'on nous sommes dans des sociétés européennes vieillissantes qui sont en train d'entrer dans de graves déficits de population. Le renouvellement des populations ne va plus pouvoir se faire, puisqu'il y aura plus de morts que de naissances. C'est ce qui est en train de se produire en Allemagne déjà, mais qui est en voie de se produire en France. Et donc on sait très bien, tous les économistes le savent bien, l'avenir de nos pays repose sur l'arrivée de migrants. Alors aujourd'hui, on a des migrants que l'on rejette, alors qu'on aurait la possibilité très certainement de faire avec, en tout cas une partie importante d'entre eux, on aurait la possibilité de faire des contrats pour qu'ils se forment, pour qu'ils participent à nos sociétés, qu'ils y restent s'ils veulent, mais sur des contrats d'acceptation, bien sûr, des règles républicaines.
Votre message, il est en parfaite cohérence avec la parole papale aujourd'hui, la parole du pape François.
Par chance, oui, je crois qu'en effet, le pape François a une voix qui est particulièrement prophétique, au sens de dire une vérité qui éclaire l'avenir, quoi, et pas seulement le présent. Le pape François est bien conscient de tout ça, déjà avec sa première encyclique, Laudato si, sur les questions d'écologie, il soulignait les conséquences dramatiques du réchauffement climatique, et avec sa dernière encyclique Fratelli Tutti, tous frères, hein, il dit avec force que les migrants sont des frères en humanité, les rejeter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer les flux migratoires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, on voit bien à Calais ce qui nous est opposé par le gouvernement, c'est il ne faut pas que se reconstitue un immense bidonville comme il a existé. Certes, oui, il ne s'agit pas de favoriser la reconstitution de bidonville, mais il s'agit de permettre à des êtres humains qui vivent dans une grande angoisse déjà, qui sont inquiets quant à leur avenir, il s'agit de leur permettre d'avoir au moins de quoi se reposer, de quoi se laver, de quoi être nourri. Aujourd'hui, il y a plein d'associations qui interviennent, c'est absolument admirable à Calais, plein d'associations, et des associations qui sont mandatées par l'État, et puis il y a beaucoup d'autres associations qui sont des initiatives spontanées de citoyens ou de groupes divers. Ces associations ne peuvent pas, en tout cas les associations non mandatées, elles ne peuvent pas intervenir librement, apporter des couvertures, apporter à manger, apporter des nécessaires de toilette, etc. Parce que on leur reproche, quand elles font cela, de favoriser une installation qui pourrait aboutir de nouveau à un grand bidonville. Voilà. Donc il faut absolument qu'on avance là-dessus, sur stop à la maltraitance, et que dans le dialogue avec les différents acteurs sur place, que ce soit à Calais, que ce soit à Briançon, à Grand-Synthe, il faut absolument qu'on avance pour que, ensemble, on cherche des voies raisonnables pour tout le monde, mais qui respectent encore une fois la dignité humaine. Vous savez, je crois que les policiers et les gendarmes qui sont amenés à conduire ces opérations, ben une partie d'entre eux ne doivent pas du tout être heureux de devoir faire ça. Ils obéissent, mais ils sont sûrement pas heureux de le faire. Et je crois que là aussi, quand on mène ce genre de combat, c'est aussi pour la dignité des policiers et des gendarmes, et c'est pour la dignité de la République.
Vous êtes un observateur engagé, un acteur engagé, vous entendez faire entendre votre voix durant cette campagne présidentielle. Et quel regard portez-vous justement sur cette campagne et sur les différents éléments qui sont aujourd'hui mis en lumière?
Comme beaucoup de gens, je suis effrayé de voir comment se dessine cette campagne qui va bientôt s'ouvrir, parce que les courants, on pourrait dire les plus populistes, sont ceux qui ont donné le là à cette campagne, et que on s'aperçoit que tous les candidats sont tentés, ou presque tous les candidats sont tentés de s'aligner sur ce métronome-là, hein. Et ça, c'est assez terrifiant. Et on voit bien que la question migratoire sera très probablement au cœur de cette campagne. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des voix qui fassent entendre, je pense, tout simplement la musique de l'humanité, ou la voix de l'humanité et de la défense des droits humains. Il ne faut jamais oublier que quand on défend les droits humains de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe, c'est les droits humains de tous que l'on défend en réalité.
Le père Christian Delorme, qui est notamment à l'origine de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Un Palestinien a été tué à l'aube par l'armée israélienne. C'est arrivé lors de heurts dans le nord de la Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère palestinien de la Santé. Les affrontements ont éclaté en marge d'arrestation par les forces de sécurité israéliennes dans la ville de Tubas. La présidentielle, prévue le 24 décembre en Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé sa candidature. Aujourd'hui, le commandant des forces de l'armée nationale libyenne a conduit une guerre contre les milices de l'ouest de la Libye après la division du pays en deux camps rivaux. En 2014, il avait lancé, entre avril 2019 et juin 2020, une vaine offensive pour tenter de prendre le contrôle de Tripoli. Cette candidature intervient après celle, dimanche dernier, de l'un des fils de Muammar Kadhafi, Saif al-Islam. Les gardes-côtes marocains ont porté assistance depuis vendredi à quelques 330 migrants, des personnes en difficulté à bord de différentes embarcations de fortune dans l'Atlantique et en Méditerranée. Les départs des côtes marocaines vers l'Europe se sont récemment multipliés via des routes maritimes dans l'Atlantique ou en Méditerranée. Au moins 4 candidats à l'exil marocains qui tentaient de rejoindre l'Europe sont morts en mer la semaine dernière près de Rabat. Au moins 3 personnes ont été tuées, 33 blessées dans un double attentat suicide en Ouganda. Des kamikazes se sont fait exploser dans le centre de la capitale Kampala. De nombreux hommages après la mort de la peintre et poétesse libanaise Etel Adnan. Elle était âgée de 96 ans. Etel Adnan est née en 1925 à Beyrouth d'un père syrien musulman et d'une mère grecque chrétienne. Entretien avec le poète tunisien Tahar Bekri qui vient de publier son nouveau recueil Par-delà les lueurs, paru aux éditions Almanach. Tahar Bekri salue une artiste qui a pleinement installé son travail artistique dans la modernité.
Etel Adnan est une grande artiste libanaise et américaine. Elle est installée en France depuis les années 80 et elle a pleinement installé son travail artistique dans la modernité. Elle est peintre et poète et elle a mêlé poésie et peinture dans tout son travail. Reconnue mondialement maintenant, avec beaucoup de lieux et musées ont ouvert leurs portes à ses travaux. Le dernier en date, c'est le Centre Pompidou de Metz, mais il y a eu beaucoup d'hommages et beaucoup de reconnaissance. L'œuvre d'Etel Adnan est marquée par le Liban, mais aussi par tout l'Orient, la Méditerranée orientale. Et elle est fascinée, comme elle l'a toujours été, par la lumière, par l'intensité de la lumière et la beauté de cet Orient qu'elle a célébré avec beaucoup de nostalgie, beaucoup d'amour, mais en même temps horrifiée par les conflits de guerre, par les retors, les travers de cet Orient difficile, compliqué. Etel Adnan est de langue grecque par sa mère et elle est polyglotte, elle a écrit pratiquement en 3 langues, en anglais, en français et en arabe, et longtemps elle a été professeure d'histoire de l'art en Californie. Et elle est vraiment de plein pied dans la modernité artistique totalement. C'est une œuvre généreuse, fraternelle, amicale. Et quand on rencontre Etel Adnan, elle est toujours aimable, toujours avec sa voix douce et chantante. Elle a cet accent oriental, libano-grec presque. Mais les éditions Almanach lui ont publié des choses et beaucoup d'autres éditeurs. En Tunisie, on a traduit d'elle Une journée de New York dans les éditions Taoubad par Khaled Najjar. Et elle est aimée partout dans le monde arabe. Elle est une dame respectable et c'est une perte pour nous, pour tous. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est la noblesse des lettres sont reconnaissantes.
Vous évoquiez sa personnalité et vous mettez notamment en lumière sa douceur.
Oui, bien sûr, c'est une femme très douce et très fraternelle en même temps. Elle est très amicale et égale à elle-même. Elle n'était pas snob, ou elle était toujours en quête de relations solidaires et amicales. Et on voit très très bien la lumière qu'elle cherche. C'est une lumière extérieure et intérieure aussi qui traverse sa peinture comme sa poésie, qui est très profonde, très simple, accessible aussi. Ça ne jargonnait pas beaucoup, mais elle a elle a traversé comme ça les années et l'espace aussi géographique des États-Unis jusqu'à la France, mais le monde arabe.
Comment vous qualifiez son rapport à la langue française? C'est un rapport qu'elle a notamment évoqué lors d'entretiens sur Radio-Orient.
Oui, c'est son rapport. Elle dit par exemple qu'elle a appris la langue arabe dans la rue parce que sa langue maternelle aurait dû être, elle a été le grec. Et ce français-là est un français, je dirais pas qu'il est simple, en tout cas il est profond, il jargonne pas, on peut pas dire que c'est une francophonie d'exercice de style, c'est une poésie très, très accessible et profonde, elle va droit à l'essentiel. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrivait dans la quintessence des choses. C'est presque métaphorique, c'est des paroles presque de sagesse en appelant à la sagesse de l'humain, ce qu'il a de beau chez lui. Et elle est dans la lignée de cette poésie ramassée, rassemblée, très économe du verbe, pas beaucoup d'exercices de style. Elle va droit à l'essentiel.
Et représentait-elle également un pont entre différentes cultures?
Oui, je crois qu'elle était au centre d'une identité multiple. Et c'est ça sa richesse. Non seulement le Liban lui-même s'y prêtait, mais aussi le fait qu'elle ait vécu aux États-Unis, en France, qu'elle ait rencontré, croisé beaucoup d'autres. C'est un langage de la modernité. Pour moi, le sens même de la modernité, c'est l'éclatement identitaire qui est une richesse profonde. Ce n'est pas une identité fermée, au contraire. Elle a ouvert son espace artistique à l'autre et elle s'en est inspirée. Ça lui a jamais posé vraiment de problème. Au contraire. Et comme les langues elles-mêmes se chevauchaient, les êtres, les espaces, aussi bien dans le voyage, mais le langage le permettait aussi. Sa générosité lui a permis également d'illustrer d'autres poètes. Elle a travaillé sur des poèmes de Adonis ou une irakienne. Tout cela fait d'elle une femme généreuse et profondément humaine.
Le poète tunisien Tahar Bekri, qui vient de publier son nouveau recueil « Par-delà les lueurs » paru aux éditions Almanach avec les peintures d'Annick Le Toer. Les Libanais de l'étranger n'ont plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales avant les législatives du 27 mars prochain. Ils ont jusqu'au 20 novembre. L'épidémie de Covid-19 se propage de plus en plus activement en France. Le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. La circulation du virus s'est accélérée depuis maintenant quelques semaines, de l'ordre de 30 à 40% d'augmentation par semaine, a regretté aujourd'hui le ministre de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirme que la France est en état d'alerte sur le plan sanitaire, mais assure-t-il, aucun confinement n'est prévu aujourd'hui. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Aurélie Taquilin, conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France, conseillère municipale à Courbevoie, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.